L'échange. Selma Lagerlöf. Extrait des Trolls et des Hommes. Un jour, une mère troll parcourait la forêt, portant son petit dans une hotte en écorce jetée sur son dos. Le marmot était gros et laid, avec des cheveux tels des soies de cochon, des dents aussi acérées que des poinçons et un petit doigt muni d'une griffe. Sa mère troll, pourtant, estimait bien sûr qu'on aurait su trouver de par le monde plus bel enfant. Au bout d'un moment, elle arriva dans un endroit où la forêt s'éclaircissait. Un chemin passait là, criblé de trous et que les nombreuses racines rendaient glissant. Et, sur ce chemin, chacun sur son cheval, s'avançaient un fermier et sa femme. À peine la mère troll les eut-elle aperçus qu'elle voulut s'esquiver au plus profond de la forêt, pour ne pas être vue des humains. Mais, à l'instant même, elle remarqua que la fermière portait un enfant sur le bras, et de ce fait, elle changea d'avis. « Il me faut vérifier si l'enfant d'homme égale en beauté mon petit », pensa-t-elle, et elle se blottit contre un noisetier qui poussait en bordure de chemin. Las, lorsqu'ils passèrent devant elle, son impatience la fit se dresser à tel point que les chevaux aperçurent sa grosse tête noire de troll. Ils se cabrèrent et détalèrent complètement affolés. Le fermier comme son épouse manquèrent d'être éjectés de leur selle. Tous deux poussèrent un cri d'effroi, puis se penchèrent en avant pour ressaisir leur reine, et, en un instant, ils avaient disparu. La mère troll, n'ayant pas eu le temps de voir l'enfant d'homme, restait là, grimaçant de dépit, quand ce qu'elle vit la rasséréna. À ses pieds, l'enfant gisait sur le sol. Il avait glissé du bras de sa mère au moment où les chevaux se cabraient et, par chance, avait atterri dans un tas de feuilles mortes où il se trouvait indemne. La peur occasionnée par sa chute le faisait pleurer, mais, dès que la mère troll se pencha au-dessus, il fut si étonné et amusé qu'il se tut à l'instant et tendit les mains pour tirer sur sa barbe noire. La mère troll, elle, contemplait le petit homme avec stupéfaction. Elle vit les doigts fins pourvus de petits ongles roses, les yeux d'un bleu limpide et la petite bouche rouge. Elle toucha les cheveux soyeux, passa la main sur sa joue et se sentit de plus en plus étonnée. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'un enfant pût être à ce point rose et doux et bon. Brusquement, la mère troll se débarrassa de sa hotte d'écorce. En sortit son propre marmot et le posa à côté du petit homme. Alors, confrontée à l'immense différence qui existait entre eux, elle se mit à pleurer bruyamment. Entre-temps, le fermier et sa femme, ayant réussi à maîtriser leur monture, revenaient à la recherche de leur enfant. La mère troll les entendait approcher, mais, n'ayant pas regardé à satiété, elle resta assise devant l'enfant d'homme jusqu'à ce que les cavaliers fussent pratiquement en vue. Et brusquement, elle prit une décision. Elle abandonna son propre rejeton au bord du chemin, tandis qu'elle glissait l'enfant d'homme dans sa hotte d'écorce, jeta celle-ci sur son dos et s'enfuit en courant dans la forêt. À peine était-elle disparue que les cavaliers arrivaient. Il s'agissait de fermiers vivant à l'aise, riches et respectés, propriétaires d'une grande ferme dans la vallée fertile qui s'étendait au pied de la montagne. Bien que mariés depuis quelques années déjà, ils ne possédaient que cet unique enfant et l'on comprend leur hâte de le retrouver. La fermière, trottant quelque peu en avant de son mari, aperçut la première l'enfant qui gisait sur le bord du sentier. Il hurlait à plein poumon pour appeler sa mère et rien qu'à ce bruit épouvantable, la fermière aurait dû comprendre de quel genre d'enfant il s'agissait. Mais elle venait d'éprouver une telle angoisse à l'idée que son petit eût pu mourir de la chute qu'elle ne sut que penser « Dieu soit loué, il est vivant !»« Voilà notre petit » écria-t-elle à son mari et d'un bond elle fut à terre pour se précipiter vers le marmot troll. Quand le fermier la rejoignit, il trouva son épouse assise par terre avec le visage de quelqu'un qui n'en croit pas ses yeux. Mon enfant n'avait pas ses dents en poinçon, dit-elle, tandis qu'elle retournait le petit dans tous les sens. Mon enfant n'avait pas ses cheveux aussi raides que des poils de cochon, se lamenta-t-elle, et l'on sentait dans sa voix une épouvante grandissante. Mon enfant n'avait pas cette griffe sur le petit doigt. Certain que sa femme ne pouvait qu'être devenue folle, le fermier mit vivement pied à terre. « Regarde cet enfant !» dit la femme en lui tendant. « Et dis-moi si tu comprends pourquoi il a l'air si bizarre. » Le fermier le prit dans ses mains, mais à peine y avait-il jeté un coup d'œil, qu'il cracha par trois fois et le jeta loin de lui. « C'est un rejeton de troll !» dit-il. « Il ne s'agit pas de notre enfant !» Sa femme restait assise au bord du chemin, incapable de réfléchir et n'arrivant pas à s'expliquer ce qui venait de se produire. « Mais qu'est-ce que tu fais à cet enfant ? » s'écria-t-elle. « Tu ne vois donc pas que notre enfant a été échangé ? » dit-il. « Les trolls ont profité de ce que nos chevaux se sont emballés. Ils nous ont volé notre enfant et ont laissé un des leurs à la place. « Mais alors, où donc est mon enfant maintenant ? » demanda la femme. « Eh bien, il est chez les trolls, » dit le mari. Alors seulement la femme saisit toute l'horreur de la situation. Elle pâlit comme une mourante et son mari pensa à un instant qu'elle allait rendre l'âme. « Notre enfant ne peut pas être bien loin, » dit-il en essayant de la calmer. « Nous devons entrer dans cette forêt pour l'y chercher. » Ce disant, il attacha son cheval à un arbre et s'enfonça dans les fourrés. La femme se leva pour le suivre, mais à ce moment, elle s'aperçut que le marmot-troll était si mal placé que les chevaux, inquiétés par sa présence, pouvaient à loisir lui décocher des ruades. Elle frissonna à la simple idée de toucher ce petit, mais finit quand même par le déplacer un peu sur le côté, hors d'atteinte des sabots. « Voici le hocher que notre fils tenait à la main quand tu l'as laissé tomber !» cria le fermier d'entre les arbres. « Maintenant, je sais que je suis sur la bonne piste !» Son épouse se hâta de l'y rejoindre, et dès lors, ils parcoururent longuement la forêt à la recherche de leur fils. Pourtant, ils ne trouvèrent ni enfant, ni troll. Et quand s'installa le crépuscule, ils durent retourner auprès des chevaux. La femme pleurait et se tordait les mains. L'homme marchait en serrant les dents et sans prononcer le moindre mot pour la consoler. Descendant d'une vieille famille respectable, il savait qu'elle se serait éteinte si elle n'avait eu un fils. Et maintenant, il en voulait à sa femme d'avoir laissé tomber l'enfant. Elle aurait dû le tenir plus fermement que toute autre chose, pensait-il. Mais voyant à quel point elle était désespérée, il n'eut pas le cœur à lui adresser des reproches. Il l'avait déjà aidée à remonter en selle quand elle pensa au gamin troll. « Qu'allons-nous faire du petit troll ? » dit-elle. « Tiens, lui, où est-il passé, celui-là ? » demanda l'homme. « Il est là-bas, sous le buisson. »« Qu'il y reste ? » dit l'homme avec un rire amer. « Nous devrions quand même l'emmener. Nous ne pouvons pas le laisser ainsi dans cette forêt sauvage. »« Bien sûr que nous le pouvons !» dit le fermier en mettant le pied à l'étrier. La femme se dit qu'après tout, son mari avait raison. Il n'avait pas à s'occuper du rejeton de la mère troll. Aussi laissa-t-elle son cheval avancer de quelques pas, mais bien vite, il lui devint impossible de poursuivre son chemin. « Il s'agit tout de même d'un enfant, » dit-elle. « Je ne peux pas le laisser ainsi en pâture au loup. Passe-moi cet enfant. »« Certainement pas, » répondit l'homme. « Il est très bien là où il est. Si tu ne me le passes pas maintenant, je sais que je serai obligée de revenir le chercher ici ce soir. » dit la femme. Apparemment, les trolls ne se sont pas contentés de voler mon enfant, ils ont aussi tourné la tête à ma femme, marmonna le fermier. Mais il saisit néanmoins l'enfant et le tendit à son épouse, car celle-ci lui était très chère, et il avait coutume de respecter sa volonté en toutes choses. Le lendemain, le malheur était connu de toute la paroisse, et maints détenteurs de savoir et d'expérience se hâtaient vers la ferme pour y fournir conseils et recommandations. Qui se retrouve avec un gamin de troll chez lui doit le frapper à grands coups de bâton, dit une vieille. Pourquoi faudrait-il être si dur avec lui ? Demanda la fermière. Certes, il est fort laid, mais il n'a quand même rien fait de mal. Si l'on frappe cet engin suffisamment pour qu'il enseigne, la mère troll accourra le chercher en vous rejetant le vôtre. J'en connais de nombreux qui ont ainsi récupéré leur enfant. Oui, mais ces enfants-là ne sont pas restés longtemps vivants ensuite, ajouta une autre vieille. Et la femme se dit qu'elle ne pourrait jamais utiliser cette méthode. Dans la soirée, alors qu'elle se trouvait seule dans la pièce avec le marmot, elle se sentit emplie d'une immense nostalgie qui la laissait désemparée. « Peut-être devrais-je finalement agir comme on me l'a conseillé », pensa-t-elle. Mais elle n'arrivait pas à s'y résoudre. À cet instant précis, le fermier entra dans la pièce, un gourdin à la main en demandant à voir le marmot. La femme comprit qu'il voulait suivre le conseil des vieilles et frapper l'enfant troll pour récupérer le sien. « Je suppose que cela vaut mieux ainsi, » pensa-t-elle. « Je suis si bête que je serais parfaitement incapable de frapper un enfant sans défense. » Mais à peine l'homme eut-il asséné un coup au marmot troll que sa femme se précipita pour lui saisir le bras. « Non, ne frappe pas, ne frappe pas !» supplia-t-elle. « On dirait que tu ne tiens pas à retrouver ton petit, » dit l'homme en essayant de se dégager. « Bien sûr que je veux le retrouver, » dit la femme, « mais pas de cette manière-là. » Le fermier leva le bras pour frapper à nouveau, mais avant qu'il ait pu taper, sa femme s'était jetée sur l'enfant, de sorte qu'elle reçut le coup à sa place. « Juste ciel !» s'exclama l'homme. « Décidément, je vois que tu tiens à ce que notre enfant reste chez les trolls toute sa vie. » Il restait planté là à attendre, mais sa femme, elle, restait par terre pour protéger l'enfant. Alors, l'homme se débarrassa du gourdin et sortit de la pièce, à la fois peiné et révolté. Plus tard, il s'étonna de ne pas avoir accompli sa volonté, malgré la résistance opposée par sa femme. Mais quelque chose en elle l'avait amené à capituler. Il n'avait pas pu outrepasser la volonté de son épouse. Quelques nouvelles journées de douleur et de chagrin s'écoulèrent. Il est incontestablement difficile à une mère de perdre son enfant. Mais il est pire encore de le voir remplacé par un marmot troll, car cela attise son regret toute sa vie durant et ne la laisse jamais en paix. « Je ne sais pas comment nourrir ce marmot, » dit la femme un matin à son mari. « Il refuse de manger ce que je lui propose. » « Rien d'étonnant à cela, » dit l'homme. « N'as-tu pas entendu dire que les trolls ne mangent que des grenouilles et des souris ? Tu ne vas tout de même pas me demander de descendre à l'étang pour lui trouver de quoi manger ?» dit la femme. « Non, ça je ne te le demande pas, » dit l'homme. « Je trouve que ce serait tant mieux s'il mourait de faim. » La semaine entière s'écoula sans que la fermière pût faire ingurgiter quoi que ce soit au marmot. Elle disposait toutes sortes de bonnes choses, mais le marmot ne répondait qu'en grimaçant et en crachant quand elle le poussait à goûter ses délices. Un soir, alors qu'on voyait déjà le marmot mourir de faim, le chat entra dans la pièce, une souris entre les dents. Alors, la fermière arracha la souris au chat, la lança au marmot troll et sortit précipitamment de l'endroit pour ne pas voir de quelle manière il mangeait. Mais quand le fermier s'aperçut que sa femme avait réellement commencé à ramasser des grenouilles et des araignées pour le marmot, il fut pris d'une telle aversion pour elle qu'il ne sut plus le dissimuler. Dire le moindre mot aimable lui était impossible, et pourtant elle avait encore suffisamment de pouvoir sur lui pour qu'il reste au foyer. Il n'était pas le seul concerné. Les domestiques, eux aussi, commençaient à désobéir et à ne plus respecter leur maîtresse. Le maître fit comme s'il ne remarquait rien, et la femme comprit que si elle continuait à prendre la défense du marmot, chaque nouvelle journée octroyée par Dieu deviendrait pour elle un dur fardeau. Pourtant, il se trouve qu'elle était ainsi faite que lorsqu'un être se trouvait haï de tous, sa nature à elle la poussait à venir et de toutes ses forces en aide aux misérables. Alors plus elle souffrait à cause du marmot, plus elle veillait attentivement à ce que rien de mal ne lui arrivât. Quelques années plus tard, la fermière se trouvait seule chez elle, un matin, occupée à rapiécer un habit d'enfant. « Hélas, » pensa-t-elle tout en cousant, « voilà bien de tristes journées pour qui doit s'occuper d'un enfant venu d'ailleurs ?» Elle cousait sans cesse, mais les trous étaient si larges et si nombreux que les larmes lui montaient aux yeux quand elle les regardait. « Pourtant une chose est sûre, » pensa-t-elle encore, « si je devais raccommoder le vêtement de mon propre fils, je ne compterais pas les trous. » « S'occuper de ce marmot n'est pas une sinécure, » pensa la fermière en découvrant un nouveau trou. « Le mieux serait que je l'emmène si loin dans la forêt qu'il ne pourrait pas retrouver le chemin de la maison et que je l'y abandonne. » « Il est vrai que je n'aurais guère d'efforts à faire pour me débarrasser de lui, » reprit-elle un moment plus tard. « Si je le perdais de vue un seul instant, il se noierait au fond du puits ou brûlerait dans le four ou se ferait mordre par le chien ou décocher une ruade des chevaux. » Oui, ce serait facile de se débarrasser de lui, méchant et téméraire comme il est. Il n'est personne ici à la ferme qui ne le haïsse pas. Et si je ne restais pas sans cesse auprès de lui, quelqu'un profiterait vite de l'occasion pour l'éliminer. Elle s'approcha de l'enfant qui dormait dans un coin de la pièce et le regarda. Il avait grandi et il était encore plus laid que la première fois où elle l'avait vu. La bouche s'étirait en une sorte de groin, les sourcils formaient deux brosses rêches et sa peau était toute brune. Raccommoder tes vêtements et te surveiller passe encore, pensa-t-elle. Mais mon mari en a assez de moi. Les valets me méprisent, les servantes se rient de moi, le chat crache quand il me voit, le chien grogne et montre les dents. Et tout cela, c'est ta faute. Que les animaux et les hommes me haïssent, je le supporterai encore, s'exclama-t-elle. Mais le pire, c'est à chaque fois que je te vois, mon propre petit me manque plus qu'auparavant. Hélas, mon petit chéri, où es-tu? Es-tu couché sur la mousse et les branches, là-bas, chez la mère troll? La porte s'ouvrit et la femme reprit vivement son ouvrage. C'était son mari. Il paraissait content et lui parla plus aimablement que depuis longtemps. « C'est aujourd'hui jour de marché à la paroisse, dit-il. Que dirais-tu d'y aller voir ?» La femme accueillit cette proposition avec joie et répondit que cela lui ferait très plaisir. « À toi de te préparer, » dit le mari. « Nous serons obligés d'y aller à pied car les chevaux sont tous au champ. Mais en passant par la montagne, nous devrions arriver à temps. » Peu après, la fermière se tenait sur le seuil, joliment parée de ses habits du dimanche. Depuis des années, rien ne lui était arrivé d'aussi plaisant et elle en avait complètement oublié le marmot-troll. « Mais, pensa-t-elle soudain, peut-être est-ce que mon mari tient ainsi à m'éloigner afin que les valets puissent tuer le gamin pendant mon absence ?» Et elle retourna vite dans la maison pour en revenir avec le gros marmot sur le bras. « Ne pourrais-tu laisser celui-là à la maison ?» dit le mari, et il dit cela d'une voix douce, sans la moindre trace de fâcherie. « Non, je n'ose pas le laisser, » répondit-elle. « Bien, c'est ton affaire, » dit le fermier. « Mais cela te fera un lourd fardeau à hisser sur le sentier de la montagne. » Ils entreprirent donc leur marche, mais celle-ci fut laborieuse car la pente était raide. Ils durent en effet grimper jusqu'au sommet avant d'arriver à la bifurcation permettant d'atteindre le chef-lieu de la paroisse. Pour en finir, la femme fut si fatiguée qu'elle pouvait à peine avancer un pied. Plusieurs fois, elle essaya de persuader le gros garçon qu'il fallait marcher tout seul, mais il s'y refusait. L'homme était content et aimable, comme il ne l'avait jamais été depuis la perte de leur enfant. « Donne-moi le gamin maintenant, » dit-il. « Je vais le porter un moment. »« Oh non, j'y arriverai, » dit la femme. « Je ne voudrais pas que cette saleté t'importune. »« Pourquoi te chargerais-tu de lui toute seule ?» dit-il en la déchargeant du marmot. À l'endroit où le mari prit l'enfant, le chemin était plus difficile. Tout glissant, il courait le long d'un profond ravin et était si étroit qu'on avait peine à y poser le pied. La femme marchait derrière. Et tout à coup, elle eut peur que quelque chose n'arrive à son mari tandis qu'il portait l'enfant. « Vas-y doucement !» cria-t-elle, car elle trouvait qu'il avançait beaucoup trop vite et sans prendre garde. Juste après, d'ailleurs, il trébucha et faillit laisser tomber l'enfant dans le ravin. « Si l'enfant était réellement tombé, nous en aurions été débarrassés pour toujours, » pensa-t-elle. Mais à l'instant même, elle comprit que l'intention de son mari avait été de jeter l'enfant dans le précipice en laissant croire à un accident. « Et oui, » pensa-t-elle, « c'est clair, il a inventé toute cette histoire pour pouvoir se débarrasser du marmot avec l'espoir que je n'y verrai qu'un regrettable accident. Et mieux vaudrait sans doute que je le laisse faire. » Une nouvelle fois, l'homme trébucha sur une pierre, et une fois encore, le marmot faillit glisser de ses bras. « Donne-moi cet enfant, tu risques de le faire tomber, » dit la femme. « Non, » dit le mari, « je vais faire attention. » Alors qu'il disait cela, il trébucha une troisième fois, et comme il tendait le bras pour se rattraper à une branche, l'enfant tomba. La femme marchait juste derrière lui, et bien qu'elle vînt de penser qu'il serait agréable d'être débarrassée du marmot, elle se précipita, réussit à l'agripper par un pan de ses vêtements et le hissa sur le chemin. Alors, brusquement, le mari se tourna vers elle, lui présentant un visage transformé, horrible à voir. « Tu n'as pas été aussi rapide quand tu as laissé tomber notre enfant dans la forêt, » dit-il plein de rage. La femme ne répondit pas. Une immense tristesse s'était abattue sur elle quand elle avait compris que la gentillesse de son mari était feinte. Et elle avait fondu en larmes. « Pourquoi pleures-tu » dit-il durement. « Ça n'aurait pas été une catastrophe que je laisse tomber ce gamin. Allez, viens maintenant, sinon nous allons être en retard. »« Je crois que je n'ai plus envie d'aller au marché, » dit-elle. « Oui, moi non plus, » dit l'homme, d'accord avec elle sur ce point. Tandis qu'il revenait, il se demanda combien de temps encore il saurait supporter sa femme. Si par force il lui arrachait l'enfant, tout pourrait redevenir entre eux comme autrefois, se disait-il. Mais il vit alors le regard qu'elle posait sur lui, plein de mélancolie et d'inquiétude. Et, une nouvelle fois, il se retint par égard pour elle, et tout reprit comme avant. Quelques années passèrent encore jusqu'à ce que, par une nuit d'été, un incendie ravage la ferme. Quand les gens se réveillèrent, la grande pièce et les chambres étaient emplies de fumée, et le grenier n'était plus qu'un tapis de flammes. Plus question d'éteindre ou de sauver quoi que ce soit. Il ne restait plus qu'à se ruer dehors pour ne pas mourir brûlé. Le fermier, sorti dans la cour, contemplait sa maison en feu. « Il y a une chose que j'aimerais savoir, » dit-il. « Et c'est qui a bien pu me causer ce malheur ?»« Oh, qui d'autre cela pourrait-il être que le gamin ?» dit un valet. « Depuis un moment déjà, il ramassait des copeaux et des brindilles pour y mettre le feu, aussi bien dans la maison que dehors. » « Hier, il avait monté un tas de branches mortes au grenier, » dit une servante. « Et il s'apprêtait à y mettre le feu quand je l'ai vu. » « Il a sûrement réussi à le faire plus tard dans la soirée, » dit le valet. « S'il y en a un à remercier pour ce malheur, soyez sûr que c'est lui. »« Si au moins les flammes avaient pu l'emporter, » dit le fermier, « je ne regretterais pas ma vieille maison. » Au moment même où il disait cela, sa femme sortait en courant du bâtiment, traînant l'enfant après elle. Alors le fermier se précipita vers elle, lui arracha le marmot, le leva à bout de bras et le jeta dans la maison. Les flammes sortaient par le toit et par les fenêtres, et la chaleur était terrible. Un moment, la femme dévisagea son mari, blême et horrifié. Puis elle fit demi-tour et se lança dans la maison pour récupérer l'enfant. « Tu peux tout aussi bien brûler, toi aussi !» cria le mari. Malgré tout, elle ressortit, entraînant le marmot. Ses mains étaient sérieusement blessées et ses cheveux à demi brûlés. Personne ne lui adressa la parole quand elle sortit. Elle s'avança vers le puits, éteignit quelques flammèches qui consumaient le bord de sa jupe et tomba assise, le dos contre la margelle. L'enfant troll, couché sur ses genoux, s'endormit rapidement, mais elle resta ainsi, droite et éveillée, regardant devant elle avec des yeux tristes. Un tas de gens passaient là pour rejoindre le bâtiment en feu, mais personne ne lui parla. Tous semblaient la trouver si épouvantablement repoussante qu'ils ne supportaient pas de l'approcher. À l'aube, quand le feu eut entièrement consumé la ferme, le mari vint vers elle. « Je n'en peux plus, » dit-il. « Tu sais qu'il n'était pas question pour moi de te quitter, mais je refuse de continuer à vivre en compagnie d'un troll. Je m'en vais maintenant, et pour ne plus jamais revenir. » Quand la femme entendit ces paroles et vit son mari qui se retournait puis s'en allait, elle sentit tous ses membres tressaillir et se tendre. Elle voulut courir le rattraper, mais l'enfant troll pesait sur ses genoux. Elle n'avait plus assez de force pour remuer, et elle resta assise. Le fermier monta droit dans la forêt, en se disant que ce devait être la dernière fois qu'il prenait ce sentier. Mais à peine avait-il parcouru quelques distances qu'un petit garçon s'approchait de lui en courant. L'enfant était aussi beau et souple qu'un jeune arbre. Ses cheveux étaient doux comme soie, et ses yeux avaient l'éclat de l'acier. Las. « Voilà à quoi aurait pu ressembler mon fils, si j'avais pu le garder, » pensa le fermier. « Voilà le genre d'héritier que j'aurais eu, bien différent de ce sale noireau que ma femme a introduit dans ma demeure. »« Bonjour, » dit le fermier. « Où vas-tu comme ça ?»« Bonjour à toi, » répondit l'enfant. « Si tu arrives à deviner qui je suis, je te dirai où je vais. » En entendant la voix, le fermier pâlit. « Tu parles à la manière des gens de ma famille, » dit-il. « Si mon fils n'était pas chez les trolls, je dirais que tu l'es. »« Oui, vous avez bien deviné, père, » dit le garçon en riant. « Et puisque vous avez bien deviné, laissez-moi vous dire que je me rends auprès de ma mère. »« Tu ne dois pas aller voir ta mère, » dit le fermier. « Elle ne se soucie ni de toi, ni de moi. Son cœur ne bat que pour un gros marmot de troll tout noir. »« Est-ce vrai, père ?» dit le garçon en regardant son père droit dans les yeux. Alors il faudrait peut-être mieux que je reste avec vous dans l'immédiat. Le fermier était si heureux de voir son enfant que les larmes lui montaient aux yeux. « Oui, demeure avec moi » s'exclama-t-il en serrant le garçon dans ses bras avant de le soulever en l'air. Et il avait si peur de le perdre une nouvelle fois qu'il reprit sa marche en le portant ainsi. Après qu'ils eurent fait quelques pas ainsi, le garçon lui parla. « Heureusement que vous ne me portez pas aussi mal que vous portiez le petit troll, » dit-il. « Que veux-tu dire là ?» demanda le fermier. Que la mère troll marchait sur l'autre versant du ravin en me portant sur le bras, et à chaque fois que vous trébuchiez et manquiez de perdre le marmot, elle aussi manquait de me lâcher. « Que racontes-tu ? Vous marchiez de l'autre côté du ravin ?» dit le fermier soudain très soucieux. « Jamais je n'ai eu aussi peur, » dit le garçon. « Quand vous avez jeté l'enfant troll dans le ravin, la mère troll a voulu m'y jeter moi aussi. Si mère n'avait pas été là à ce moment, » le fermier avait ralenti le pas. Et il entreprit de questionner le garçon. « Il faut que tu me racontes comment cela se passait chez les trolls. »« Parfois, c'était assez difficile, » dit le garçon. « Mais quand mère était gentille avec l'enfant troll, la mère troll, elle aussi était gentille avec moi. »« Te frappait-elle souvent ?» demanda le fermier. « Elle ne m'a pas frappé plus souvent que vous n'avez frappé son enfant. »« Et que te donnait-on à manger ?» demanda encore le père. « Chaque fois que ma mère donnait des grenouilles et des souris à l'enfant troll, j'avais droit à du beurre et du pain. Mais quand vous présentiez du pain et de la viande à l'enfant troll, la mère troll me présentait des serpents et des chardons. La première semaine, j'ai failli mourir de faim si mère n'avait pas été là à ce moment. » Entendant l'enfant raconter cela, le fermier fit demi-tour et descendit à grands pas vers la vallée. « Je me demande pourquoi, dit-il, mais... « J'ai l'impression de sentir sur toi une odeur de fumée. »« Oui, rien d'étonnant à cela, » dit l'enfant. « On m'a jeté dans le feu la nuit dernière, quand vous avez jeté l'enfant troll dans la maison en flammes. Si mère n'avait pas été là à ce moment. » Le fermier était maintenant si pressé qu'il courait presque. Mais soudain, il s'immobilisa. « Maintenant, » dit-il, « tu dois m'expliquer pourquoi les trolls t'ont rendu la liberté. Quand mère a sacrifié ce qui lui était plus cher que la vie, alors, les trolls n'ont plus eu de pouvoir sur moi, et ils m'ont laissé partir, répondit l'enfant. A-t-elle donc sacrifié ce qui lui était plus cher que la vie ? Demanda le fermier. Oui, on peut le dire, puisqu'elle vous a laissé partir pour pouvoir garder l'enfant troll, dit le garçon. La fermière était toujours assise près du puits. Elle ne dormait pas, elle se sentait comme pétrifiée. Elle n'arrivait pas à bouger et... elle voyait aussi peu ce qui se passait autour d'elle que si elle avait été morte. Et brusquement, elle entendit au loin la voix de son mari, qui appelait son nom. Et son cœur se remit à battre. La vie reprit en elle. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle, à peine réveillée encore. La lumière du jour s'était installée, le soleil brillait, l'alouette lançait ses trilles, et il semblait impossible que par une si belle journée, elle fût obligée de traîner son infortune. Mais ensuite elle aperçut les poutres carbonisées qui gisaient autour d'elle et un tas de gens aux mains noircies, aux visages rougis. Et elle comprit qu'elle se réveillait dans une vie encore plus pénible que la précédente, tout en sachant cependant que sa souffrance était maintenant arrivée à un terme. Des yeux, elle chercha le marmot. Il n'était plus sur ses genoux et nulle part non plus autour d'elle. Si tout avait été comme auparavant, elle se serait levée d'un bond pour le chercher. Mais... maintenant, elle sentait que, d'une certaine manière, cela était inutile. Une nouvelle fois, elle entendit que son mari l'appelait, là-bas, dans la forêt. Il arrivait sur l'étroit sentier qui menait à la ferme. Et tous les villageois qui avaient prêté main forte pour éteindre l'incendie couraient vers lui et l'entouraient, de telle sorte qu'elle ne pouvait pas le voir. Elle l'entendit seulement qui appelait son nom à plusieurs reprises, comme s'il voulait qu'elle vînt à lui, elle, comme tous les autres. Et sa voix était emplie d'une joie immense, mais pourtant elle restait assise, elle n'osait pas bouger. Finalement, toute l'assemblée fut autour d'elle, et l'homme se distingua des autres, et s'avança, et posa dans ses bras un bel enfant. « Voici notre fils, il nous est revenu, » dit l'homme, « et c'est toi, et personne d'autre, qui l'a sauvé. »